18h à Niamey, les programmes du studio Kalangu continuent. Merci d'être avec nous, le journal en français au micro Rukaya Abdraman. Au sommaire, célébration de Mouloud cette nuit ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cité de Tchota est l'une des principales destinations, la signification à suivre dans cette édition. La présence des forces de défense et de sécurité à Inates, région de Tillabéri, a permis de mettre fin au prélèvement de la zakat sur les populations par des individus non identifiés. Seulement, d'autres préoccupations sécuritaires sont là, selon l'adjoint au maire de cette commune. La transhumance dans le département de Gaya sur les frontières du Bénin et du Nigeria n'est pas sans difficulté pour les éleveurs. Dans la partie magazine de cette édition, un entretien avec le président de la Fédération nationale des éleveurs du Niger. Bonsoir à tous. C'est au cours de la nuit de ce lundi 19 au mardi 20 novembre, correspondant à la 12e nuit du 3e mois du calendrier lunaire, que sera célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au Niger, c'est dans la cité historique de Tchota, située à 25 km de Niamey, dans la région de Dosso, que cette fête est traditionnellement célébrée. Cheikh Barham Boubacar, membre du comité d'organisation, joint au téléphone hier par Michel Deji, explique le sens de cette fête.
La majorité des musulmans du monde entier célèbrent cet anniversaire dans la mesure où le Saint-Coran qualifie le prophète d'être le meilleur homme sur terre puisqu'il émane de la lumière divine, ce qu'aucun être humain n'a encore eu. C'est le dernier prophète, donc c'est lui qui incarne la miséricorde pour toute l'humanité. Donc le jour de la naissance de cette personnalité revêt une importance capitale pour les musulmans. C'est pourquoi chaque année, l'on se réunit pour célébrer ça dans la joie. Ça fait cette année la 66e édition que le Mouloud est célébré ici à Tchota.
Ils sont nombreux à Niamey, les fidèles musulmans qui se sont donné rendez-vous aux différents points de rencontre à l'image du rond-point Wadata pour le départ sur Tchota. Parmi ces fidèles, Mohamed Al-Kair Ibn Sheikh Attahir affirme être très content de célébrer le Mouloud à Tchota.
Nous constatons qu'il y a un engouement certain de fidèles musulmans pour le Mouloud. Dieu merci, que l'année prochaine soit encore davantage meilleure. Ce sont les fidèles les plus chanceux qui partent à Tchota. C'est un lieu musulman où on peut facilement bénéficier de la bénédiction des cheikhs. Raison pour laquelle chaque année, nous faisons le déplacement sur Tchota. Le bon Dieu encourage fortement les prières faites par deux, trois, voire quatre personnes, à plus forte raison, un lieu où plusieurs milliers de musulmans peuvent prier ensemble. Voilà la raison pour laquelle je ne vais pas rater le Mouloud de Tchota. Que le bon Dieu ramène tous les musulmans sur le droit chemin.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Le prélèvement de la zakat par des individus non identifiés dans la commune rurale d'Inates, région de Tillabéri, s'est extompé suite à la présence des forces de défense et de sécurité qui patrouillent dans la zone. Aujourd'hui, la première préoccupation pour les autorités locales demeure les attaques perpétrées sur les populations. Entre le mois de mai 2018 au 16 novembre 2018, 56 morts ont été enregistrées selon Asalek Ag Alhamdou, adjoint au maire de la commune rurale d'Inates, jointe au téléphone par Gungu Maman Dantani.
Du 1er mai au 15 de ces mois, on a enregistré 56 morts, rien que dans la commune d'Inates. C'est ça notre préoccupation. C'est pas la zakat, ça s'est arrêté depuis que l'État a pris ses dispositions. Vraiment, il y a des patrouilles dans la zone. La dernière attaque, c'était le 16, il y a eu une attaque, mais il n'y a pas eu de morts.
Par rapport à cette situation, monsieur le maire, la semaine passée, vous avez tenu une sorte de forum. Où est-ce que ce forum a eu lieu et il s'agit de quoi?
Le forum a eu lieu à Yassan, nomade, 20 km d'Ayarou. On compte organiser un autre, la date n'est pas encore fixée, toujours dans la commune de Nates, dans un village qu'on appelle Arsinamé. Les gens ont parlé de beaucoup de choses. Chacun a dit ce qu'il pense, certaines vérités. D'autres qui sont frustrés disent ce qu'ils veulent, c'est de trouver une solution. Quand les gens se rencontrent, peut-être arriveront à combattre ensemble ce phénomène.
La crue du fleuve Niger en cette période est appelée crue soudanienne ou crue noire, généralement observée entre janvier et février. D'après un expert en hydrologie de l'autorité du bassin du Niger ABN, le prolongement de la saison pluvieuse et l'ensablement du fleuve seraient à la base du caractère précoce de la montée des eaux cette année. Koulibaly Brema au micro du studio Kalangou.
Au niveau des Niamey, il y a ce qu'on appelle la crue soudanienne. C'est la crue qui vient du Niger supérieur, ou bien crue noire. Généralement, c'est fin novembre, ça commence. Le maximum peut être observé en janvier. Il y a des années où ça peut aller jusqu'en février. Actuellement, il y a une montée précoce de la crue comparativement aux deux dernières années. Cette montée précoce est provoquée par l'importance d'abord de la crue locale qui a été observée en août et une grande pluviométrie dans le Niger supérieur qui s'est même poursuivie jusqu'au mois d'octobre 2018. C'est aggravé par l'ensablement parce que le fond du fleuve est occupé. Donc l'eau qui vient, ça s'étale. À ce rythme, des risques d'inondation sont vraiment évidents.
4,5 milliards de personnes en 2018 dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité selon l'OMS et l'UNICEF. Ici au Niger, selon une étude commanditée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en 2018, il a été relevé que 13 millions de personnes continuent de déféquer à l'air libre et que c'est seulement 23% de ces personnes qui utilisent des latrines. Dambaji Ousmane, président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia, au micro de Diallo Mariama Kenda.
Une étude qui a été commanditée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en août 2018 au niveau de l'INEST, le compte du Prosea, ont relevé dans ce rapport que 70,8% de personnes continuent à déféquer à l'air libre au Niger, soit un total de plus de 13 millions de personnes. Nous avons également 23% seulement de personnes au Niger qui utilisent des latrines. Souvent, on peut faire des latrines, mais les personnes n'utilisent pas les latrines. La situation, elle est vraiment catastrophique parce que nous sommes vraiment parmi le pays, je peux dire, premier en termes de défécation à l'air libre en Afrique de l'Ouest. Naturellement, nous avons profité de cette opportunité aujourd'hui pour organiser des séances de sensibilisation à Ourno, dans la région d'Etawa, pour essayer de sensibiliser les gens sur l'importance des toilettes, comment les utiliser aujourd'hui.
À l'occasion des 500 jours de captivité des 39 femmes et enfants de Nglewa le 15 novembre et en faveur de la célébration ce jour de la Journée mondiale contre les abus envers les enfants, les acteurs de la société civile dans la défense des droits de l'enfant se prononcent. Sidiku Moussa de l'ONG EPAD estime que les droits de l'enfant doivent être pris en compte dans toute décision à prendre. On l'écoute au micro d'Alamine Ouachar.
L'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dit ceci. Dans toute décision, qu'elle soit d'ordre juridique, politique, programmatique ou budgétaire, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être au cœur. Quel qu'en soit le nombre de milliards que ça coûte, quel qu'en soit le nombre de décisions politiques qu'il faut prendre pour libérer d'autres prisonniers, quel que soit le sacrifice qu'il faut en tout cas avoir, il faut aller dans ce dialogue, il faut aller négocier. On ne négocie pas parce qu'on est faible, mais on négocie parce qu'on a ratifié une convention internationale 30 novembre 1990, qui lie le Niger à rendre effective plutôt cette disposition de l'article 1. Mieux, dans les principes sacro-saints des droits de l'enfant, il y a ce qu'on appelle les principes indérogeables, qui sont le socle du fondement des droits de l'enfant. En dehors du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a le principe de la survie et du développement. La survie et le développement d'un enfant ne peut pas se faire dans les mains des ravisseurs. Parce qu'un enfant, pour survivre et se développer, il doit être dans un environnement sécurisé, un environnement protecteur.
Le sommet extraordinaire de l'Union africaine a pris fin hier dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs points sont évoqués, notamment les réformes institutionnelles proposées par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. La taxe sur l'importation et la cotisation des États membres ont été aussi évoqués. Les détails avec Tarnan Foudé Ahmed.
Durant le sommet extraordinaire de cette institution, les débats se sont concentrés sur les réformes institutionnelles, rapporte l'hebdomadaire Jeune Afrique. La réforme de cette structure panafricaine porte essentiellement sur la composition de la Commission de l'Union africaine. La nouvelle réforme vise à limiter la Commission de l'Union africaine à 6 commissaires. Selon les chefs d'État des pays membres, cela devrait permettre $500,000 d'économie à l'organisation. Leur mode de sélection a été également revu. Les candidats seront désormais présélectionnés par un panel d'éminentes personnalités africaines assistées par d'experts d'un cabinet de recrutement. Un autre point de ce sommet extraordinaire concerne la taxe à l'importation. À ce niveau, l'Union africaine a lancé un fonds destiné à financer les réponses aux crises sur le continent avant qu'elles ne dégénèrent en conflits ouverts. Ce fonds devrait être doté à terme de 400 millions de dollars, mais seuls 60 millions ont été recueillis jusqu'à présent auprès des pays africains, précise Jeune Afrique.
Début ce lundi 19 novembre de la 11e édition du Festival Émergence, un festival des arts de scène qui, selon le directeur artistique, se fait proche des populations. Cet événement culturel, a-t-il souligné, aura lieu dans des lieux de proximité. Le quartier Séno, situé dans le 5e arrondissement, est le site choisi pour abriter Émergence. Le directeur artistique Oumar Aboubakar Dibetoudi dévoile le programme qui s'étend sur 6 jours au micro de Diallo Maria Makenda.
C'est un festival qui se veut proche des populations, faire du théâtre professionnel dans des lieux même de proximité. Il s'agit de faire des représentations. Les acteurs vont interpréter des pièces de théâtre sur une scène en face d'un public. En réalité, c'est la plateforme des représentations qui commence aujourd'hui. En amont, depuis le 7 novembre, les formations ont commencé. Il y en a une formation en jeu d'acteur avec les jeunes comédiens en herbe de Niamey. Après, on a commencé une formation en batik à l'endroit des femmes de Séno, c'est un quartier de Harobanda. Depuis 2 jours, on a commencé la formation en mise en scène à l'intention des artistes qui sont sur le festival et une autre formation sur un concept que nous avons mis en place qui s'appelle les assises citoyennes. Tous les soirs, donc, il y aura 2 spectacles de théâtre au village du festival. Dans les écoles, nous avons prévu des petites formes qui seront interprétées par les étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin.
La cérémonie d'ouverture aura lieu ce jour à 19h30 au village du festival à Séno, suivi d'un spectacle venu de la Belgique. Et puis la partie magazine de cette édition, le département de Gaya, région de Dosso, avec ses 2 frontières, celle du Bénin et du Nigeria, est un passage obligatoire pour les éleveurs transhumants. Ces éleveurs rencontrent d'énormes difficultés dans cette traversée. Comment la Fédération nationale des éleveurs du Niger arrive-t-elle à gérer ces difficultés? Réponse dans cet entretien accordé par Manga Sambo Umoru, président de la Fédération, à notre correspondant de Gaya, Daouda Hassan.
Avec la fin de la campagne agricole, les regards se sont tournés vers la transhumance, une activité qui suit de près la Fédération nationale des éleveurs du Niger, FNEN Dado. Car comme le dit M. Manga Sambo Moru, il y a beaucoup de problèmes à gérer.
La transhumance, c'est un mode de vie comme l'appelle d'autres. Donc c'est une activité qui est pratiquée par des éleveurs. Ça consiste à quitter d'un endroit à un autre à la recherche du fourrage surtout, de l'alimentation pour les animaux.
Est-ce que ces transhumants-là rencontrent des difficultés?
Souvent, ils font la transhumance inter-pays. Souvent, c'est au sein du même pays. Par exemple, l'autre pays, le Niger, ils quittent une région pour aller dans une autre région. Ils quittent une zone pour aller dans une autre zone. Au cours des routes, ils ont vraiment souvent des problèmes avec les autres acteurs, qui sont des agriculteurs, d'autres éleveurs, des autorités, les FDS. C'est comme ça, ceux qui vont aussi dans d'autres pays, ils ont aussi ces problèmes. Surtout si tu n'es pas en règle.
Vous parlez des règles, quelles sont ces règles?
D'abord, il faut avoir les certificats de vaccination et de transhumance, les CIT. Il faut vacciner tes animaux. Toi-même, il faut porter tes pièces d'identité. Et les pays d'accueil, il a aussi ses réglementations. Chaque pays réglemente sa transhumance. Donc, ils ont des portes d'entrée où ils vont demander aux autres pays, si vos éleveurs veulent venir chez nous, voilà les portes qu'ils doivent suivre. Et tout ça, les éleveurs doivent être au courant de tout ça avant d'aller en transhumance. Et donc, souvent, il y a des éleveurs qui n'ont pas ces connaissances et ils rentrent directement dans un pays.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser ces transhumants-là?
D'abord, nous sommes en relation avec les autorités, avec les autres acteurs, à travers nos cadres de concertation. Sur toute la zone frontalière du Bénin, par exemple, toutes les communes, nous avons des cadres de concertation qui nous animent. Des cadres composés des autorités, à savoir les maires, les chefs traditionnels, les agriculteurs, les éleveurs, les jeunes, les femmes. Donc nous échangeons par rapport aux problématiques de la transhumance. À travers des forums, des forats, dire voilà comment il faut faire la transhumance, voilà les papiers qu'il faut avoir pour aller en transhumance. Et souvent, même si les éleveurs ils sont sensibilisés, tant que les autres acteurs ne sont pas sensibilisés, ça ne peut pas marcher. Par exemple, un éleveur, il connaît par où passer, par exemple un couloir de passage. On a dit voilà les couloirs de passage qui existent. Maintenant, à sa grande surprise, il passe par le couloir, il trouve que le couloir est obstrué. Parce que lui, l'agriculteur, il n'est pas informé, il n'est pas sensibilisé par rapport à la libération de ces couloirs de passage-là.
Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.